1. L'Épître aux Hébreux de nouveau, ou maintenant chapitre 8, assez brièvement. Dans ce chapitre, l'auteur nous introduit à ce fameux passage chez Jérémie. Jérémie 31, verset 31 et suivant. Ce n'est pas nécessaire que nous étudions en détail ce passage. Notez bien tout simplement ce que dit cette écriture. Voici que les jours viennent, verset 8, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda, vers 6 siècles avant Christ. Et quelle donc est la conclusion? Verset 13. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître, c'est-à-dire l'ancienne alliance est obsolète. Donc, déjà dans le temps de David, psaume 95, psaume 110, il y avait des annonces qui rendaient déjà obsolète l'ancienne alliance. Encore de nouveau, dans le temps de Jérémie, avec l'annonce de nouvelle alliance, ça signale que l'ancienne alliance est ancienne. Qui annonce en effet que c'est déjà en principe obsolète. Donc ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut prouver de l'Ancien Testament, c'est que déjà dans l'Ancien Testament, déjà, si nous lisons ces écrivains de l'Ancien Testament en séquence historique, il n'y a pas manière d'éviter le point que déjà l'Ancien Testament lui-même annonce que l'ancienne alliance est ancienne, obsolète, que ce soit passé, qu'il y a une nouvelle alliance, un nouveau prêtre roi, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, cela nous prépare maintenant pour ce que nous avons ici dans chapitre 9. Dans chapitre 1 et chapitre 2, Jésus est supérieur aux anges. Dans chapitre 3, il est supérieur à Moïse et à Josué. Dans chapitre 5, il est supérieur à Aaron. Dans chapitre 7, à Aaron et même à Melchizedek. Et maintenant, dans chapitre 8, son alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Et maintenant, dans chapitre 9, et c'est ça qui nous concerne ici, son sacrifice est supérieur. Nous revenons en fin de compte à ce que c'est le sacrifice de Jésus-Christ et pourquoi ce sacrifice est supérieur au sacrifice de l'Ancien Testament. Ce que notre auteur démontre, c'est que sous le système de l'Ancien Testament, on devait avoir pour ce sacrifice du jour d'expiation une place, verset 1 à verset 5, une offrande, verset 6 et verset 7, et une approche, verset 8 à verset 10. Et ensuite, il va répéter ces trois choses pour la nouvelle alliance. Donc, premièrement, une place. Une offrande, ensuite une approche, une place, verset 1. La première alliance avait elle aussi ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé. Dans la première partie appelée le lieu saint, se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis, derrière le second voile, se trouvait la partie appelée « Saint des Saints ». Elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne. Une urne d'or contenant la manne ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche se tenaient des chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Eh bien, c'est le même mot que nous avons découvert chez Romains chapitre 3, où la traduction colonne, c'est moyen d'expiation. C'est le même mot. C'est le sacrifice propitiatoire. C'est le lieu de sacrifice, d'expiation et propitiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Cela suggère quand même que notre auteur aurait pu continuer à donner une exposition en détail en ce qui concerne ces détails de l'Ancienne Alliance. Eh bien, la première alliance avait-elle aussi ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre? C'est-à-dire le contraste avec le sanctuaire qu'il va décrire dans chapitre 9, verset 11, c'est le sanctuaire terrestre, c'est-à-dire sur cette terre, une tente, un tabernacle, et pas tout simplement la présence de Dieu dans les cieux, la présence de Dieu où il se trouve. Spirituel dans ce sens, pas un tabernacle terrestre. Et il mentionne les deux divisions de ce tabernacle, le saint ou la place sainte et le saint des saints. Il n'y a pas de mention ici du cours ni de la place où il fallait se laver, Exode chapitre 40. Les deux choses qui sont mentionnées sont, verset 2, le chandelier et la table et les pains de proposition. Si vous voulez examiner les passages de l'Ancien Testament, le chandelier, Exode chapitre 25, verset 31 à 40, Exode chapitre 37, verset 17 à verset 24. Et ensuite, la table et les pains de proposition qu'il fallait changer chaque semaine. Exode 25, 23 à 30, et Exode 37, 10 à 16. Ensuite, verset 3, derrière ce qu'on voit se trouvait la partie appelée Saint des Saints, ou le lieu très saint. Elle contenait un brûle parfum. Le mot en grec, plumaterion, peut signaler un brûle parfum, mais il n'y avait pas de brûle parfum derrière le second voile. Et le mot traduit en or suggère que c'était construit en or, mais le brûle parfum était seulement couvert en or, et ça ne se trouvait pas derrière le second voile. Mais le mot tout matériel traduit ici brûle parfum peut être traduit aussi, il y en a taché Joseph par exemple comme cela, et même dans la septante où ça signifie le brasier qui était utilisé derrière ce qu'on voit. Par exemple, Lévitique chapitre 16, verset 12 et verset 13. À mon avis, ce que l'auteur a en vue, ce n'est pas ici le brûle parfum, mais le brasier qui était utilisé le jour de l'expiation en or, utilisé derrière le deuxième de ce qu'on voit. Ensuite, l'arche de l'Alliance, Exode 25, 10 à 16. Et Exode 37, 1 à 5. Cette arche de l'Alliance contenait, numéro 1, la main. Deuxièmement, le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Troisièmement, les tables de l'Alliance. Maintenant, dans des années plus tard, il n'y avait que les tables de l'Alliance. Après le séjour du tabernacle chez les Philistins, 1 Samuel chapitre 6, verset 10 à verset 15, quand le tabernacle est revenu, après ce temps-là, il n'y avait plus de mention de la manne ni du bâton d'Aaron. Et ensuite, la place de propitiation. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre la propitiatoire, et il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Bon, une place pour le sacrifice. Deuxièmement, l'offrande, versets 6 et verset 7. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Donc, ce sont pour les fautes de lui-même, de sa famille et du peuple, devant la présence de Dieu. Ces choses sont établies par la loi. Lévitique chapitre 16, verset 3. Un taureau pour lui-même et sa famille et un chèvre pour le peuple. Lévitique chapitre 16, verset 5. Et en fin de compte, une approche. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert. Après tout, il y avait un second voile. Seulement le prêtre pouvait y entrer, le souverain sacrificateur. Et seulement une fois par année. Et seulement avec le sang. Déjà exigé par les termes de l'Alliance. Ce n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure, c'est une parabole, ça c'est le mot anglais, pour le temps présent. Notez bien, c'est une figure pour le temps présent. La loi annonce quelque chose qui est maintenant accompli. Vous voyez la séquence encore une fois? C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions et imposées jusqu'à un temps de durée forte. Eh bien, ensuite, de nouveau, l'auteur reprend la même série, c'est-à-dire une place, une offrande et une approche à Dieu. Une place, verset 11, mais Christ. Voilà le contraste, mais Christ. Lui, il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc, il est entré dans la présence de Dieu. Maintenant, il y a un sens où Dieu demeurait dans le tabernacle, dans le temple. Mais même à la dédication du temple, au temps de Salomon, Salomon lui-même a admis que Dieu ne peut pas être réduit à un temple. Après tout, il s'est présenté là, Mais c'était seulement une manière de parler, c'était une manière d'annoncer ce qui aura lieu un jour, une autre place, une place plus large, plus grande, plus transcendante. La place où Dieu se trouve. Et une offrande, verset 12, et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle et une approche à Dieu, verset 13 et verset 14. Car si le sang des boucs et des taureaux est la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Qu'est-ce que ça signifie dans ces deux versets 13 et 14? Combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Comment comprendre cela? Est-ce que ça veut dire par l'Esprit Saint, c'est-à-dire la troisième personne du Sainte Trinité, de la Sainte Trinité? Et si oui, qu'est-ce que ça signifie? Quand un bouc était sacrifié, est-ce qu'il y avait de valeur dans la mort d'un bouc, d'un chef, d'un veau? Après tout, le bouc n'a pas dit, me voici, tue-moi, je prends ta place. Il n'y avait aucune moralité dans le sacrifice d'un bouc. Et en réalité, du point de vue humain, c'était le sacrifice d'une possession des êtres humains. Après tout, le bouc et le chef, le veau, sont appartenus à des personnes. C'était leur richesse, en effet. Où était donc le sacrifice? Et comme l'auteur explique encore davantage un peu plus tard dans ce chapitre, et surtout dans chapitre 10, il dit, comment est-ce que le sang d'un bouc, d'un veau, peut nous nettoyer, peut ôter nos péchés? Les péchés des hommes? Donc ce n'est pas tout simplement une question de lire l'Ancien Testament en série, c'est-à-dire en séquence historique, mais avec un peu d'intelligence pour comprendre en fin de compte. Des bouts qui peuvent nous envoyer. Donc, nous lisons chapitre 10. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas d'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par des sacrifices toujours identiques, qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent le culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais par ces sacrifices, on appelle chaque année le souvenir des péchés. Donc, on commet un péché. Et nous savons le jour de l'expiation. Le souverain sacrificateur prendra le sang d'un bouc, d'un chef, d'un veau. Et selon la révélation de Dieu, c'est Dieu, après tout, qui a ordonné ce tabernacle, ce système de sacrifice. Selon son ordonnance, le souverain sacrificateur offrirait ce sang. Dans ce sens, donc, mon péché est déjà pardonné maintenant par la décision de Dieu, par la promesse de Dieu. Et le lendemain, je commets mon péché. sang sera encore offert de nouveau? L'année prochaine. J'ai 364 jours à attendre. Donc, dans un certain sens, ce sacrifice annuel nous force à se rappeler de nos péchés. Ce n'est pas une solution, en fin de compte. Ça doit être répété et répété et répété. Et même par la répétition, ça annonce que ce n'est pas suffisant. Donc, ce n'est pas tout simplement qu'il y a une promesse de nouvelle alliance, Jérémie 31. Ce n'est pas tout simplement qu'il y a une promesse d'un meilleur repos ou un autre sacrificateur, un sacrificateur sans l'ordre de Melchizedek, qui annonce donc que l'ancienne alliance est obsolète, s'y inclut le souverain sacrificateur lévitique, mais que même les sacrifices annoncent qu'ils ne sont pas efficaces en fait, bon. Pas dans ce sens final. Il faut les répéter, les répéter, les répéter. Mais où se trouve donc la valeur du sacrifice de Christ? Où se trouve cette valeur? Si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, comment, combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche, à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? Qu'est-ce que ça signifie, cet Esprit éternel? Vous savez aussi bien que moi que le mot « esprit » a plusieurs significations, ça dépend complètement du contexte. Il me semble que dans l'Ancien Testament, quand les animaux étaient sacrifiés, ce n'était pas selon leur humain, selon leur esprit, selon leur volonté, selon leur décision. Il n'y avait pas de valeur morale dans cela. Mais quand Christ s'est offert, c'était la décision du Dieu homme, déjà présentée dans les premiers versets de cette épître. Ce n'était pas tout simplement la décision de l'homme fini. C'était la décision du Dieu homme. La décision, la volonté, le humain du Dieu homme avec une valeur absolue parce que c'est volontiers l'Esprit éternel du Christ Dieu homme. C'est une manière de parler, il me semble, de sa propre volonté, de ce qu'il a fait lui-même. Il s'est offert. Voilà la signification, voilà la valeur extrême, infinie de ce sacrifice. Donc, quand nous essayons de nous poser la question, si Christ prend ma place et ma place, cela serait à l'enfer pour l'éternité. Comment est-ce qu'il peut payer pour cela avec quelques heures sur la croix ou même trois jours dans le tombeau, quoi que ce soit, pour toute l'éternité? Où se trouve la valeur de son sacrifice? Vous voyez? Et c'est un homme. Il paye pour un homme. Comment est-ce qu'il peut payer pour tous ceux qui mettent confiance en lui? C'est un homme, en fin de compte. Où se trouve la valeur de son sacrifice? Et la réponse, il me semble, c'est le sacrifice du Dieu homme qui par l'Esprit éternel la valeur de sa volonté, la valeur du fait qu'il est le Dieu homme, l'Esprit Saint de Christ Jésus. C'est ça qui rend ce sacrifice si riche, si valable, si éternel. Et donc, il n'y a pas besoin d'un autre sacrifice, parce que c'est tellement le sacrifice de l'Esprit éternel, du Christ le Dieu homme. C'est pour cette raison que les réformateurs parlaient des fois d'une double justification. C'est-à-dire, la justification que nous recevons quand nous sommes sauvés. Nous sommes déclarés justes devant Dieu, malgré le fait que nous sommes pécheurs encore. Mais même tous nos travaux après cela sont mêlés encore dans le péché, n'est-ce pas vrai? Même les bonnes choses que je fais sont déjà corrompues avec des motivations impures. Oh oui, je veux aider le monde, mais aussi je veux que le monde m'admire parce que j'aide le monde. Nous sommes tellement corrompus, même dans nos sermons, n'est-ce pas? Nous prêchons, et c'est pour le bien de la congrégation, mais nous voulons aussi à la fin que quelqu'un nous dise, que nous nous dise que c'était un bon sermon. Nous sommes tellement corrompus, n'est-ce pas? Même dans nos bonnes œuvres, soi-disant. Mais même ces bonnes œuvres sont justifiées devant Dieu, une double justification, parce que Christ a tout payé, pour toujours. Pour toujours. Et donc, quand je tombe aujourd'hui dans le péché, où est-ce que je vais? Est-ce que j'attends un autre sacrifice? Non, c'est déjà été payé. Je tombe encore à la foi. À la croix. À la mort de Jésus. Combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit d'un saint offert, lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Voilà la vision. L'Esprit éternel est l'Esprit absolu, l'Esprit divin, l'Esprit self-conscious. Reconnaissant de soi, avec conscience de soi, je ne sais pas comment traduire cela. La volonté du Christ, le Dieu homme, qui s'est offert librement, sans condition, entièrement libre à Dieu, par la volonté de Dieu, par le plan de Dieu, afin que l'offrande du Christ lui-même, dia pneumatos aionion, c'est-à-dire par l'Esprit éternel, est un acte moral de valeur inestimable et absolue. Et c'est cela qui nous justifie. Et c'est pour cette raison, penser que répéter cet acte de sacrifice, soit dans l'Eucharistie, soit parmi les animaux, est presque blasphème. Ou au moins, c'est au moins un manque complet de ce que le Seigneur a accompli sur la croix. Il a tout fait. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché. C'est un acte d'une valeur inestimable et finale et pour toujours. Eh bien, cette question a une importance extrême dans notre discussion. En théorie, nous avons encore 10 minutes avant l'heure de questions et réponses. Mais je pense que nous allons commencer les questions et réponses. Et s'il n'y a pas assez de questions avant 6h30, donc j'ai quelques autres passages à suggérer. Mais peut-être que c'est le temps à ce point maintenant de prendre des questions. Vous avez entendu la question? Quelle est la vision du sacrifice de Christ chez les églises émergentes? Et quelle sorte de réponse est-ce que je donnerai? Oui? Les églises émergentes sont aujourd'hui tellement diverses que c'est un peu difficile de donner une réponse générale qui s'attache à toutes ces églises. Mais il y a deux ou trois auteurs qui ont parlé avec une influence pas mal sévère, Stephen Schock en Angleterre et d'autres personnes, Brian McLaren aux États-Unis, qui ont parlé de la notion de substitution pénale comme une forme de, qu'est-ce que vous pensez, child abuse en français? Abus d'enfant? Comme si le père est en train d'abuser son enfant parce qu'il lui donne un châtiment. Et donc, il rejette complètement, dans ce cas, dans cette réponse assez extrême qu'on trouve pas dans chaque église émergente, mais dans quelques églises émergentes, il rejette absolument une place pour substitution et punition. Comment est-ce que Dieu va abuser son propre fils à notre place? Ce n'est pas juste, après tout. Et ce n'est pas même doux ou gentil. Dieu s'échappe de cette affaire. Hein? C'est seulement le fils qui condamne. Donc, c'est une forme d'abuser les enfants. Comment comprendre ça? Eh bien, on pourrait commencer avec la doctrine de la Sainte Trinité. Après chapitre 3 et chapitre 4 de Romains, nous lisons chapitre 5. C'est surprenant, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous lisons dans chapitre 5, surtout verset 8? Commençons avec verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au grand marqué, est mort pour des impies. Encore la question de l'impiété. Comme dans la vie d'Abraham, c'est une question du péché. C'est une question du vertical que nous avons vu dans notre première session ce matin. Comment être réconcilié à Dieu? À peine pour le temps pour le juste. Mais dans ce cas, ce n'est pas une question de substitution, peut-être. Mais on prend sa place même afin qu'il puisse s'échapper d'un tel et tel mort, peut-être un accident. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Notez bien. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant, si Christ et Dieu étaient tout simplement deux personnes différentes, sans question de la complexité de la Sainte Trinité. De la Sainte Trinité, oui. Comment comprendre cela? Est-ce que je peux vous prouver mon amour pour vous parce que Mike Evans est mort pour vous? Ça ne fait pas du bon sens, hein? Moi, je prouve mon amour parce que Pierre, il meurt pour vous. Mais le texte nous dit, Dieu démontre son amour, il prouve son amour dans le fait que Christ est mort pour nous. Parce que Christ est à la fois Dieu. Autrement, le texte ne fait pas de bon sens du tout. sens, il faut dire que c'est le sacrifice du Dieu en même. À la fois, il y a une différence quand même entre fils et père, père et fils dans la Sainte Trinité. Donc, dans un certain sens, ce n'est pas le père, exactement, qui a tout souffert. C'était le fils parce qu'il devait devenir homme afin qu'il puisse souffrir pour nous. Mais ce n'est pas le fils qui n'est plus Dieu. C'est encore le fils qui est à la fois Dieu. Il me semble que cette position chez les églises émergentes ne comprend même pas la doctrine de la Sainte Trinité. Je connais aucun théologien qui présente le sacrifice de Christ comme un sacrifice où ça ne coûte le Père rien. Et c'est une question d'abuser les enfants. Cette critique a été inventée par des libéraux dans le décennie 1920, et ça vient chez les églises émergentes. Même quand nous parlons aujourd'hui du travail du grand sacrificateur de Jésus, la force du ministère du grand prêtre de Jésus aujourd'hui, il intercède pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas donner la mauvaise impression. Des fois, quand nous parlons de l'intercession de Jésus-Christ aujourd'hui dans les cieux, nous avons une image comme ceci. Dieu est encore en colère contre nous. Nous péchons davantage. Et Dieu veut nous détruire. Mais grâce à Jésus, qui intercède pour nous, Jésus dit, oh non, papa, je ne peux pas détruire l'autre personne. J'ai déjà payé pour son péché. J'intercède pour lui. Je ne peux pas m'ignorer. Et donc, il est sauvé. Et le Père dit, voyons, donc j'aimerais bien le détruire. Mais si tu es mort pour lui, bien je l'accepte. Est-ce que c'est ça qu'il faut imaginer? Donc, quand nous parlons de l'intercession du Fils, l'intercession, le ministère d'intercéder à notre égard, nous ne devrions pas, après tout, avoir une vision comme cela. C'est une manière de parler. Ce que ça signifie, c'est tout simplement que pour toute l'éternité, c'est la mort de Jésus-Christ qui me rend acceptable devant la présence de Dieu pour toujours. Mais après tout, le plan, c'est le plan de Dieu. Dieu en trois personnes, c'est le plan du Père. C'est Dieu, le Père, qui a envoyé son Fils. C'est Dieu, le Père, qui a accepté ce sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a trouvé que ce sacrifice était acceptable. À la mort de Jésus, le voile a été déchiré. Donc, ce n'est pas comme il faut encore persuader le Père, parce qu'autrement, franchement, peut-être qu'il perdrait sa mémoire. Peut-être qu'il ne peut pas se souvenir que c'est son plan. Donc, ça prend l'intercession du Fils pour lui rendre compte que c'était son plan après tout, et c'était mon sang après tout. Hein? C'est ridicule, ça, franchement. Donc, quand nous parlons de l'intercession du Fils, c'est une manière de parler, c'est une manière de dire que c'est toujours ses blessures, ses stigmates, son sacrifice, sa mort à ma place qui me rend pour l'éternité acceptable devant le Père. C'est tout ce que ça signifie. Et il y a d'autres manières de parler de Jésus dans la présence de Dieu. Dans un autre sens, on parle assez souvent de lui, même chez l'Épître aux Hébreux, comme celui qui s'est offert et ensuite il s'est assis à la droite de la majesté divine. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie qu'il est acceptable. C'est fini. Il ne se présente dans cette image pas comme un prêtre à genoux pour intercéder dans mon corps, mais comme celui par qui le sacrifice a été complètement accepté et même maintenant il s'assoit au côté de Dieu et toute la souveraineté de Dieu est manifestée par Jésus-Christ pour jusqu'à la fin, jusqu'à la destruction de l'ennemi final. C'est une autre image qui fait du bon sens aussi. Donc, il ne faut pas imaginer que Dieu, le Père et le Fils se tiennent dans des trames différentes. Et l'un, il est abusé, et l'autre, c'est l'abuseur. C'est une vision complètement ridicule. Et prétendre que la doctrine de la substitution pénale exige une telle vision, ça manque plus complètement. Ça ne comprend pas les passages chez l'Épître aux Hébreux, chez Romains, chapitre 5, et ainsi de suite. Est-ce que ça répond assez à la question? Je ne regarde jamais en haut, hein? C'est ma faute? Oui. Eh bien. Mais tout le monde n'a pas entendu cette belle question, donc il faut que tu le poses toi-même. Jusqu'à quel point est-ce que Jésus était abandonné par le Père sur la croix? Je reviendrai à ce point en détail au centre évangélique au mois de novembre. Mais ce n'est pas une bonne réponse. Ce n'est pas une question facile. Dans un sens, il était abandonné. Dans un autre sens, certainement, il ne l'était pas. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'il dit dans le jardin? Dans le jardin de Gethsémané, il comprend que c'est le plan de Dieu qu'il a à la croix. C'est le plan de Dieu. Dans un sens, il serait rebelle contre Dieu. S'il n'était pas allé. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer que Dieu l'a abandonné? Et même quand nous entendons le cri de désolation, Matthieu chapitre 27, surtout verset 43 à verset 50, le cri de désolation, il faut se souvenir du fait que c'est une citation de psaume 22. Quand David a crié avec ces paroles, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À la fois, il faut lire tout simplement tout le psaume pour se rendre compte du fait que David pouvait crier ainsi parce qu'il se fiait encore en Dieu, à Dieu. Il faut même se fier à Dieu quand on crie un tel cri. Nous ne devons pas athées quand nous crions un tel cri. Il y a des commentateurs aujourd'hui qui disent que la leçon que nous devons apprendre de cette cri de désolation, c'est ceci. Si Jésus lui-même pouvait tomber dans un tel désespoir, ce n'est pas trop surprenant que nous tombons dans le désespoir aussi de temps en temps. Donc, nous ne devrions pas être trop découragés par cela. Si Christ vient découragé, nous aussi, nous avons le droit d'être découragés. Et c'est tout ce qu'il faut apprendre de cela. Mais il y a un symbolisme dans ces versets qu'il ne faut pas omettre. La noirceur sur la terre. Et déjà avec toute l'image du Pâques. C'est-à-dire, pour les foyers où l'agneau était tué, la colère de Dieu passait et la famille était sauvée. Maintenant, Jésus devient l'agneau de Dieu à cette nouvelle fête, la Pâques. Et si on voit la mort de Jésus dans les images du jour de l'expiation, c'est de par le sacrifice d'un taureau, d'un chèvre, que la culpabilité que Dieu trouve dans le pécheur, c'est payé par le sang de ce sacrifice qui prend ma place et donc ma punition. Et s'il prend ma place et ma punition, malgré le fait qu'il est lui-même parfait, dans ce sens, il reçoit le rejet de son Père. Dans ce sens négatif. Mais c'est par le dessein de son Père. On peut comprendre cela au moins un peu, je pense. Quand on est parent, je peux aimer mon fils et le punir. Je pouvais aimer son fils et pouvait le punir dans ce sens de rejeter. Mais pas parce qu'il était coupable, mais pour préserver sa justice, parce qu'il comptait nos péchés comme les siens. Il comptait sa justice comme la nôtre. Et enfin, le point est autorisé par le fait qu'après la mort de Jésus, dans verset 50, nous lisons immédiatement dans verset 51 que le voile, le second voile, a été déchiré. Donc, il y avait accès libre à la présence de Dieu. Imaginez-vous les sensibilités de ceux à Jérusalem. À peine de mort, seulement le souverain sacrificateur pouvait y entrer, seulement une fois par année, avec son, et maintenant, le voile est déchiré. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, certainement, assez clairement, que nous avons libre accès dans la présence de Dieu, sans souverain sacrificateur, mais ça signifie aussi, donc, que le péché est maintenant pardonné, que la punition a été déjà payée. Dans ce sens, qui l'a payé? C'est Christ qui l'a payé. Il est mort pour nous, le juste pour l'injuste, pour nous amener à Dieu. Ça, c'est la voie de tout le Nouveau Testament. Dans ce sens, oui, il a été rejeté par son Père, dans un sens judiciaire. Mais ça ne veut pas dire que la Sainte Trinité était divisée, ou que ce n'était pas le plan de son Père, seulement le plan du Fils. Mais ce n'est pas comme si dans le jardin, Jésus prie. Oui, je sais, mon Père, que tu es saint, que tu te trouves en pleine colère contre cette race. Mais moi, je les aime. Donc, je vais prendre leur place. Non, Jésus prie, si c'est possible. Vous voyez? Il ne veut pas boire cette coupe, mais quand même ce que tu veux, pas ce que je veux. Dans ce sens, il fait la volonté de son Père. C'est même en prenant cette tâche de punition, d'être maudit, qu'il plaît à son Père. Donc dire tout simplement oui ou non, il a été rejeté par son Père, c'est trop simple. Est-ce qu'il a été rejeté par son Père? Oui et non. Oui, dans un sens judiciaire, par l'amour de son Père, non pas tout simplement pour nous, mais afin que son Fils même devienne notre sauveur et honoré comme le Père est honoré par tout le monde. Est-ce que ça répond à la question? Pas suffisamment. Pardon? Est-ce qu'il est descendu à l'enfer pour subir à l'enfer? Par exemple. Et cette interprétation dépend complètement d'une certaine interprétation de 1 Pierre chapitre 3. Ça, c'est un autre passage que je ne vais pas aborder ici. J'ai toute une exposition d'enquête sur Internet si ça vous aide. Mais la chose à remarquer pour notre coup ici, c'est juste avant de mourir, il dit tout est accompli. Il me semble qu'il faut comprendre que tout était accompli. Et de ne pas y ajouter encore des souffrances pénibles. Tout était accompli. Quand les Écritures sont silencieuses, oui. Nous autres aussi, nous devrions être silencieux. Je pourrais ajouter quelques détails. Par exemple, dans Jean chapitre 20, il dit à Marie, je ne suis pas encore monté à mon Père. Mais je pense qu'il veut dire dans son corps de résurrection. Donc ça ne dissipe pas la question. Et je pourrais mentionner plusieurs autres passages où il faut essayer de comprendre ce qu'il a accompli. Mais à part de cela, il y a une silence à cet égard. Pareillement, quand dans la résurrection de Lazare, dans Jean chapitre 11, il n'y a pas une longue discussion de ce que Lazare lui-même a expérimenté dans la présence de Dieu à travers ses quatre jours dans le tombeau. Il n'y a pas de mensonge. Et peut-être que c'est une bonne chose. Oui. Oui, j'ai dit, une des justifications de la foi, une des choses nécessaires pour que la foi soit bonne, c'est que l'objet de la foi soit vrai. Oui. Mais si je me souviens bien, je n'ai pas parlé de la connaissance de l'objet de la foi qui est nécessaire. C'est que l'objet de la foi soit vrai. Et donc, il y a bien des personnes qui ont une toute petite connaissance de ce que Jésus a accompli. Oui, d'accord, d'accord. Mais la Bible ne dit pas si vous avez une connaissance suffisamment profonde de ce que Jésus a accompli sur la croix, vous serez sauvés. La question que j'ai abordée était une autre question. Est-ce que c'est la foi qui est suffisante si l'objet de la foi n'est pas vrai? Et donc j'insiste, il faut que la foi, que l'objet de la foi soit vrai pour que la foi soit bonne. Ce n'est pas la seule condition, mais c'est une condition nécessaire. Maintenant, pour répondre à votre question, ça c'est une autre question, il me semble, détachée de ce que je viens de dire. Pour répondre à votre question, c'est lié à une autre question que quelqu'un m'a posée. La question, c'était, j'oublie qui c'était, mais la question était un peu comme ceci. Combien est-ce que les disciples de Jésus dans le temps de sa chair avaient compris? S'ils avaient mal compris eux-mêmes, mais ils étaient des disciples de Jésus-Christ, n'est-ce pas possible aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas grand-chose, qui quand même sont sauvées malgré le fait qu'ils ne comprennent rien de ces détails? C'est à peu près la même chose, même sans des questions. Maintenant, cette question est attachée au disciple de Jésus, mais c'est le même principe, n'est-ce pas? Et ça, c'est une question un peu compliquée, il me semble. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Jésus arrive arrivée sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples, au dire des gens. « Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit. Les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, et ainsi de suite. Donc, à ce point, est-ce que Pierre avait une vraie foi chrétienne? Il annonce que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui-même dit qu'il est béni parce qu'il a reçu cela par révélation de Dieu. Est-ce qu'il est chrétien? Ce que Pierre entendait par Messie ou par Christ n'est pas ce que nous entendons aujourd'hui par Messie et Christ. Je ne peux pas aujourd'hui parler du Christ sans penser à sa croix, à sa résurrection. Quand j'annonce le Christ, cela inclut non pas tout simplement qu'il est le fils de David ou le roi promis, mais aussi qu'il est le sacrifice sur la croix. Je ne peux pas parler aujourd'hui du Christ sans penser aussi à la croix, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous lisons dans verset 20? À ce point, nous lisons, Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, ce qui est beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Cinq fois chez Matthieu, c'est le premier. C'est la première. Cinq fois, il donne des annonces de cette sorte. Et Pierre, comme vous savez aussi bien que moi, le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, « À Dieu ne plaît, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Est-ce qu'il y avait une foi chrétienne? Ça dépend un peu de ce que nous entendons par le mot « chrétien ». Ce côté-ci de la résurrection et de la Pentecôte, il est impossible que quelqu'un reçoive Jésus comme sauveur sans connaître qu'il est le sauveur qui est mort et ressuscité d'entre les morts pour payer pour nos péchés. Il est impossible. Mais quelques journées avant cela, quand Jésus était dans le tombeau, même jusqu'à ce point, les disciples ne comprenaient pas. Quand ils se cachaient dans leur chambre, ils ne se disaient l'un à l'autre, « Eh bien, j'attends avec joie le dimanche. » Même à ce point, ils ne comprenaient pas que le Christ devait souffrir. Malgré le fait que Jésus l'avait expliqué, ils n'avaient pas jusqu'à ce point des catégories pour comprendre que le grand roi, fils de David, devait être aussi le serviteur qui mourait sur une croix pour prendre notre place. Et autant que nous sachions, il n'y a pas d'évidence qu'un seul juif avait tout mis ces choses en dans un ensemble pour comprendre cela avant l'arrivée du Seigneur. Oui, il y a des prophètes comme Ésaïe 53, mais je ne peux pas trouver un seul juif en témoignage clair qui comprenait que le roi de David doit aussi être le serviteur souffrant. Il y a des indices chez Siméon, il y a des indices ici, mais avec une explication, oui, le roi, le fils de David, doit aussi être le grand prêtre, doit aussi être le sacrifice promis par la Pâque ou par le jour de l'expiation, et doit aussi être le serviteur souffrant. Ok. Donc, pour Pierre, arriver à une position que nous appellerons chrétien, c'est-à-dire chrétien du point de vue de ce que nous savons sur les disciples de la Pentecôte, ça prenait le progrès de l'histoire du salut. C'est-à-dire, Pierre avait une vraie foi en Jésus. Il voyait qu'il était le Messie. Et il est béni pour cette raison. Et cela était encore la révélation de Dieu. C'était tout vrai. Mais pour arriver à une position chrétienne mûre, chrétienne avec une synthèse qui met ces choses ensemble, ça prenait la résurrection. Et même le don de l'Esprit Saint. Mais pour nous aujourd'hui, sans doute, des fois il y a des étapes dans le processus de nos conversions. Sans doute. Mais ce processus ne dépend pas du tout au progrès de la rédemption. Pour l'apôtre Pierre, ça dépendait en partie de sa propre repentance et tout cela. Il est condamné par l'arrière. Moi, Satan, c'est pas gentil, ça. C'est vrai, mais ce n'est pas doux. Arrière moi, Satan. Et ça prenait, ça dépendait du progrès de l'histoire du salut, afin que Pierre arrive au point où il comprendrait que Jésus était à la fois le Messie et le sacrifice. Et pour nous, aujourd'hui, ça ne dépend pas du progrès du salut. Ça dépend de notre compréhension, de notre obéissance, de notre pénitence, de notre repentance, de notre témoignage, de quoi que ce soit. Mais ça ne dépend pas du progrès du salut. Et donc, on ne peut pas nous comparer exactement avec l'expérience de Pierre, il me semble. J'ajoute quelque chose davantage. Mais ça prendrait beaucoup trop de temps pour le justifier. Mais je l'ajoute. Souvent, quand les prédicateurs, quand les pasteurs prêchent les sermons des évangiles, peut-être des évangiles, des quatre évangiles bibliques, des quatre évangiles canoniques du Nouveau Testament, ils utilisent des passages pour nous démontrer comment croire, comment être des disciples de Jésus-Christ, comment répondre à lui, comment se repentir, ou quoi que ce soit. Et sans doute, il y a des leçons comme cela dans ces passages. Mais la raison pour laquelle les quatre évangiles nous sont donnés, ce n'est pas pour nous donner un profil psychologique de la conversion de nos jours. C'est pour nous présenter Jésus-Christ. C'est pour nous démontrer comment nous sommes arrivés de ce point de l'ancienne alliance à ce point, c'est-à-dire la nouvelle alliance accomplie par Jésus sur la croix. Donc, les mots d'institution, la coupe de la nouvelle alliance en mon sang, c'est pour démontrer comment on a passé de l'ancien régime au nouveau régime. C'est pour prêcher Christ. Donc, pour bien enseigner les évangiles, pour bien prêcher les évangiles, chaque sermon doit avoir une place pour expliquer qui Christ est, qu'est-ce que c'est l'Évangile, comment ça donne à expliquer, à exposer ce que Christ a accompli, la personne qu'il est, la révélation qu'il nous donne, et ainsi de suite. Et pas tout simplement de nous donner une espèce de profil psychologique, comment devenir disciple, quelque chose comme cela. Est-ce que ça répond un peu à la question? C'est possible qu'on comprend le mot, et il y a des interprètes qui le prennent comme cela, qu'il est devenu sacrifice du péché. C'est une façon de parler, il est devenu péché, c'est-à-dire il est devenu sacrifice pour le péché. Et c'est possible. Mais je pense que c'est plus simple et plus compliqué que cela. Est-ce que vous êtes béni dans ce quartier du monde avec Kentucky Fried Chicken? Est-ce que vous connaissez ce restaurant? Oui. Oui. Colonel Sanders et son Kentucky Fried Chicken. Je suis suffisamment vieux que je me rappelle quand Kentucky Fried Chicken par Colonel Sanders est inventé. Et partout, la radio, télévision, il n'y avait pas un grand nombre de télévisions dans ce jour. Mais à la télévision, à la radio, partout, on entendait une petite chanson, Kentucky Fried Chicken's Finger Lickin' Good, enfin, c'est pas bien, ça. Avec 11 spices, épices, oui. Et c'était tellement populaire dans le temps qu'on pourrait imaginer que Colonel Sanders aurait pu dire, je suis Kentucky Fried Chicken. Autant que je sache qu'il n'a jamais dit. Mais ça aurait été comprenable. Ça voudrait dire, en effet, que pour le vrai Kentucky Fried Chicken, il n'y a pas d'autre source que Colonel Sanders. Sans lui, il n'y a pas de vrai Kentucky Fried Chicken. Je suis Kentucky Fried Chicken. Je me souviens quand le président Charles de Gaulle a dit, je vous dis les mots exacts, je suis l'État, ou l'État c'est moi. Est-ce que vous vous souvenez? Hein? L'État, c'est moi. Bah, il est mort, l'État est encore là. Mais dans un certain sens, quand même, il avait raison. Dans cette période, sans De Gaulle, il y aurait tout simplement la guerre civile. L'État, c'était lui, dans un certain sens. C'était comprenable, même si, du point de vue d'anthologie, il n'avait pas raison. Il est mort, l'État est encore là. Donc, quand Jésus dit aussi dans Jean chapitre 11, « Je suis la résurrection et la vie », qu'est-ce qu'il entend par cela? Du point de vue d'anthologie, il n'a pas la résurrection. Il a été ressuscité, il donne la résurrection. Du point de vue d'anthologie, il n'a pas lui-même la résurrection. Mais sans lui, il n'y a pas de résurrection. C'est une manière de parler, vous voyez. Hein? Et quand la Bible dit que Christ est devenu péché, du point de vue d'anthologie, c'est ridicule. Hein? Il est toujours le Dieu homme. Il n'est pas devenu péché. Mais quand même, ça c'est clair ce que ça signifie. Ce point de rhétorique, ça signale que le péché était tellement identifié avec lui que c'est ce péché qu'il a subi, c'est ce péché qu'il a subi lui-même et pour lequel il a subi la punition. Il est devenu péché. Mais de poser des questions ontologiques à cet égard, c'est ridicule. Ça ne comprend pas la rhétorique. Est-ce que ça fait du bon sens? Donc nous retournons encore une fois à la substitution, n'est-ce pas? C'est comprenable si on accepte déjà la doctrine de la substitution pénale de Jésus-Christ. C'est comprenable comme un point de rhétorique. Si nous gardons cette vision, c'est pas comprenable du tout. Comme ça. Non, je le répète au moins autant que possible. J'ai signalé apparemment que cette division en trois, en ce qui concerne la voix, moral, civil, cérémonial, n'est pas véritablement basé dans la parole, apparemment. Et notre frère a prêché tout dernièrement, il a dit à son assemblée que la loi cérémoniale a disparu parce que, après tout, maintenant, aujourd'hui, c'est Christ qui est notre sacrifice et ainsi de suite. Et la loi civile est disparue, après tout, le peuple de Dieu n'est plus une nation. Et ça nous donne, à cette étape de l'histoire du salut, à cette époque, ça nous donne la loi morale. Et cette loi morale est amplifiée un petit peu, approfondie peut-être dans l'enseignement de Jésus, mais n'est-ce pas vrai que la loi morale continue? Si dans l'Ancien Testament, l'adultère est condamné, dans le Nouveau Testament, c'est encore condamné, après tout. Donc, est-ce qu'il a tort de prêcher comme cela? Et si non, comment expliquer ce que je viens de dire avant la pause? C'est la question à peu près? Autrement dit, est-ce que Don Carson est hérétique? C'est une grande question. Et j'aimerais bien prendre 5 heures à cet égard, mais probablement les responsables ici ne seraient pas très contents si je prenais 5 heures pour discuter ça. Je vous donne la réponse finale et ensuite je vais essayer de l'expliquer parce que ce n'est pas bien clair. Ce que je rejette, c'est le sens a priori de cette division. Ce que j'accepte, c'est le sens a posteriori de cette division. Voilà la solution. Maintenant, il faut l'expliquer. C'est-à-dire, la présupposition assez souvent quand nous parlons de cette division en trois, c'est que cette division est déjà claire dans la parole de Dieu. C'est déjà la présupposition. Et donc, quand les écrivains du Nouveau Testament parlent de ce qui est contenu sous la Nouvelle Alliance, cette division en toi est déjà claire dans leur pensée. C'est-à-dire, c'est a priori qui signifie en latin dès le commencement ou de ce qui précède. C'est-à-dire, la division est déjà là avant d'essayer de comprendre les textes, pour essayer de comprendre ce qui continue et ce qui ne continue pas. Les continuités et les décontinuités sont pas bien. Les discontinuités, la solution, c'est déjà cette division en toi. C'est déjà la présupposition. C'est la présupposition a priori. Mais la raison pour laquelle je rejette cela, c'est tout simplement une raison biblique. Il ne me semble pas que cette division en toi est très claire. Il n'y a pas de texte pour établir cela, il me semble. Il y a des textes où il y a des différences. Par exemple, Matthieu chapitre 23. C'est-à-dire, des choses les plus pesantes et les moins pesantes, est-ce qu'on dit « weighter and heavier matters of the law » Moins important, moins important, plus important, Matthieu 23. Donc, faire la dîme des églises, c'est moins important que les questions de justice et ainsi de suite. Hein? Donc, il y a des différences comme cela, mais ce ne sont pas des catégories quand même de cérémonial contre moral ou quelque chose comme cela. Et donc, quand nous arrivons au sermon sur la montagne, qu'est-ce que Jésus enseigne dans les six antithèses qui suivent ce fameux paragraphe, Matthieu 5, 17 à 20, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir » et ainsi de suite. Et ensuite, il donne 6 antithèses, c'est-à-dire, vous avez entendu que, mais moi je dis, 6 antithèses. qu'est-ce qu'il dit dans ses antithèses? Est-ce qu'il dit en effet, je vais vous expliquer ce que la loi enseigne en réalité. Je veux approfondir la loi. Je veux l'établir de nouveau avec un examen de la motivation. Ce n'est pas tout simplement le meurtre, mais c'est aussi la haine et ainsi de suite. Donc il y a un grand nombre de publications spirituelles et fortes qui nous donnent une explication des 10 commandements interprétés par le sermon. Et ces interprètes, ces exégètes, ces théologiens veulent nous convaincre qu'en réalité, la loi contre le meurtre contenait déjà en elle-même une loi contre la haine. Mais notez bien que c'est complètement une analyse atemporelle, encore une fois. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et chez Matthieu, ce verbe plaira a toujours le sens d'accomplir ce qui a été annoncé. Je commence à compter pour l'instant, je reviens. Est-ce qu'il y aura une loi au ciel, dans les nouveaux cieux, sur la nouvelle terre? Est-ce qu'il y aura une loi contre le meurtre? Probablement, c'est pas mal difficile de tuer un corps de résurrection. Mais en plus de cela, nous n'aurions pas besoin d'une loi contre la haine non plus, parce que nous serons tellement changés, tellement transformés, qu'une loi contre la haine, ça ne ferait pas du bon sens. Mais est-ce que la loi contre le meurtre, dans le décalogue, vise vers l'avenir, annonce déjà ce qui aura lieu? Pas tout simplement dans cette petite loi, mais si tout ce que nous avons vu déjà dans les annonces à travers l'esquisse de l'histoire, le trame de l'histoire du salut, et les annonces que cette ancienne alliance est déjà obsolète et tout cela, si toutes choses sont déjà en place, comment fonctionne cette loi dans le trame de l'histoire du salut? Et Jésus dit, il me semble, qu'il n'est pas venu pour abolir cette loi, mais pour l'accomplir. Et l'accomplissement d'une telle loi, c'est dans la destruction de la haine. Donc nous arrivons à la même position morale. Mais après avoir souligné déjà que c'est l'accomplissement à travers l'histoire du salut, c'est la théologie biblique et pas tout simplement la théologie atemporelle. Et je prétends que toutes les antithèses, les 6 antithèses que nous trouvons chez Matthieu chapitre 5 fonctionnent comme cela. C'est-à-dire, Jésus insiste que ces lois visent vers l'avenir, visent même vers la perfection du royaume accompli. Et déjà, ce royaume commence aujourd'hui. Et ça nous touche. Ça exige l'amour, pas la haine. Et pas la convoitise, et ainsi de suite. Donc nous arrivons à la même position, mais pas par la même route. Au lieu d'avoir une analyse qui dit en effet, avec une interprétation atemporelle, nous arrivons à l'approfondissement de la loi, ou même nous disons que la loi déjà contient tout ça, nous disons plutôt, oui, c'est la loi, c'est le condamneur. Mais dans l'accomplissement de cela, à travers l'esquisse du train de l'histoire du salut, en fin de compte, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre, La consommation du croyant, il n'y aura pas de haine. Et déjà dit, Jésus dit, et le royaume commence aujourd'hui. Nous arrivons à la même position. Et donc, si nous examinons quelles sont les lois pour lesquelles l'accomplissement est dans la même direction, pour ainsi dire, avec le minimum de change. Donc, après le fait, je peux dire ces choses, on va les appeler la loi morale. A posteriori, après le fait, c'est toujours tout simplement un label, une étiquette que j'utilise pour parler de cette portion de la loi qui change le moins, qui est approfondie par cet accomplissement. Il y a d'autres éléments, comme chez Marc 7, les aliments par exemple, qui sont abolis, mais ils ne sont pas abolis, ils sont accomplis dans la purification du cœur, ce qui est corrompu en point final, ce n'est pas corrompu par la nourriture, mais par les pensées de nos cœurs, c'est ça qui nous corrompt. Et c'est Dieu toujours qui fait la distinction entre saint et pas saint, saint et commun, saint et profane. C'est Dieu qui fait la distinction. Et les distinctions de l'Ancien Testament visent vers l'avenir et sont accomplies dans ce que Jésus enseigne à cet égard. Et je pourrais dire la même chose en ce qui concerne le jour de l'expiation et ainsi de suite. Donc, dans chaque domaine, c'est l'accomplissement de la loi qui est important. Mais l'accomplissement de ces lois qui changent le moins, ou dans la même direction, sans abolir les signes, il me semble, on peut les appeler la loi morale. Et donc, a posteriori, je n'ai pas peur d'utiliser, de parler de la loi morale. Mais la différence, c'est que je protège, il me semble, les interprétations de l'Ancien Testament que nous voyons chez les écrivains du Nouveau Testament. Autrement, nous sommes toujours tentés de comprendre l'Ancien Testament d'un sens atemporel, et pas peut-être dans la loi morale, mais dans d'autres domaines, il y a des significations pas mal sévères. Par exemple, j'ai mentionné ce matin, ou c'est après dîner, j'oublie. J'ai mentionné Galates chapitre 3, oui, c'est vraiment midi, Galates chapitre 3. Et j'ai mentionné que dans le contexte, ça parle du train du salut, n'est-ce pas? Abraham est arrivé avant la loi ne peut pas détruire les promesses et tout cela. Mais ce n'est pas comme ça que la plus grand pourcentage des puritains l'ont compris. Si vous lisez les puritains, que j'aime lire les puritains, après tout. Je les aime, comme les huguenots. Mais quand même, si nous lisons les puritains, ils disent que la Bible consiste de trois choses. Loi, grâce, et l'exemple des deux. Les exemples des deux. Loi, grâce, les exemples des deux. Ce que la Bible contient. Tentez bien, pas d'histoire. La loi, la grâce, les exemples des deux. Et comment est-ce qu'ils ont compris, donc, Galates chapitre 3? Pour bien prêcher l'Évangile, il faut avoir la préparation de la loi. C'est la loi qui est notre pédagogos pour nous amener à Christ. Donc il faut prêcher la loi pour préparer le monde pour la doctrine de l'Évangile. Il faut faire cela. Et j'ai un grand nombre d'expositions sur Galates 3 dans mes livres puritains. C'est toujours comme ça. Il n'y a aucune indication que c'est l'esquisse de l'histoire du salut ou que c'est une question de la promesse à Abraham des siècles avant la loi. Ce n'est pas une question de l'histoire du salut, de la rédemption du tout. C'est toujours une question atemporelle et personnelle. Et donc, chez John Wesley, par exemple, qui a appris la même leçon des puritains, il a écrit une lettre, 137, à peu près, j'oublie le nombre exact, mais à peu près 137, où un jeune homme lui a posé la question, comment prêcher l'Évangile quand on commencé par Jésus. Il m'a prêché l'Évangile. Et Wesley répond, est-ce que vous l'avez lu? Wesley répond. Et il répond avec une réponse puritaine. Il dit, quand je commence à prêcher l'Évangile, n'importe où, je commence avec une déclaration générale de l'amour de Dieu. Et ensuite, il dit, je prêche la loi. Je prêche la loi afin que le monde sache qu'ils sont condamnés devant un Dieu saint. Et après des heures de prêcher la loi, quand je commence à voir qu'il y a quelques-uns qui sont en larmes, qui se sentent coupables, et qui savent qu'ils sont perdus et condamnés, je prêche encore la loi. Et quand il y a un grand nombre de personnes qui se sentent coupables devant Dieu et commencent à crier, quoi faire avec cela, M. Wesley? Donc il dit, j'introduis un peu de grâce. Et quand il y a des larmes presque partout dans l'assemblée, là je prêche l'Évangile, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, parce qu'il faut commencer avec la loi. C'est la loi qui est le pain de Gorgos qui nous amène vers le Christ. Oui, c'est enseigné dans la chapitre 3, n'est-ce pas? Et ensuite, il dit, après avoir prêché la grâce, j'introduis immédiatement encore la loi, afin que les hommes ne présument pas. Ne prétendent pas. En tout cas, dans cette direction. Ça, c'est une réponse puritaine. Mais ce n'est pas de ça que Galates 3 parle. Ça parle du plan du salut. Le rôle de la foi et de la grâce avant la loi, ça explique comment interpréter l'Ancien Testament. Maintenant, il y a quand même des implications dans tout cela. Les puritains n'étaient pas complètement dans les patates, comme on dit au Québec. Ils n'avaient pas complètement encore. Oui. Dans les choux, oui. Dans les patates, ça dépend des légumes. Savez-vous, en français, j'ai le choix dans la gorge. En anglais, vous savez ce que c'est? J'ai la grenouille dans la gorge. Et si vous pensez que c'est un peu drôle d'avoir une grenouille dans la gorge, je vous assure que les Anglais trouvent ça un peu drôle, vous avez un choix dans la gorge. Eh bien, la traduction. Et même des différences entre le Québec et ici. Mais il n'est pas complètement dans les patates. C'est-à-dire, il y a un sens où un homme doit se connaître comme coupable devant Dieu avant qu'il demande le pardon. S'il ne sait pas que Dieu est saint et le prix, le sang, s'il ne comprend rien de cela, comment est-ce que ces personnes peuvent crier à Dieu pour le pardon? Du point de vue psychologique, ou même du point de vue de l'histoire du salut. Pourquoi est-ce que Dieu a pris 1500 ans pour établir la loi, pour nous montrer que la loi ne peut pas nous sauver? C'était parce qu'il fallait apprendre quelque chose de ces leçons, n'est-ce pas? Donc, dans un certain sens, il avait raison, mais ils sont tombés sur cette réponse en mal comprenant Galates 3. Même s'il avait quand même de sagesse spirituelle à préparer le monde par une bonne connaissance de leurs besoins, oui. Mais ils n'ont pas véritablement bien compris Galates 3, il me semble. De même façon, je dirais que si vous exprimez cette division en trois de la loi, morale, civile, cérémoniale, et vous dites, du point de vue heuristique, du point de vue a posteriori, nous pouvons faire de telles distinctions, ça nous aide à mieux comprendre ce que nous avons dans la parole de Dieu. Je n'ai pas d'objection. Si vous essayez de dire que cette distinction est la distinction qui détermine d'avance ce qui continue et ce qui ne continue pas, là j'ai des objections. Il n'y a pas d'évidence pour cela. Est-ce que ça répond à la question? Au moins un peu.
Si moi je saigne.
Plus fort?
Si moi je saigne Dans l'Ancien Testament, si quelqu'un avait une perte de sang, il était impur. Comment et quand il y a cette notion de pureté ou de purification par le sang?
Aussi, il y a des différences entre aliments et aliments, aussi entre poisson et poisson. Il y a bien des différences pour introduit par Dieu lui-même pour faire une distinction entre sain et profane. Dans la tâche du sang, notons que dans l'Ancien Testament, c'est présupposé que la vie est dans le sang. Quand il y a versement de sang, il y a versement de vie. Et c'est cela, il me semble, le symbolisme. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas tout simplement la vie, mais la vie violemment sacrifiée pour les autres. Et donc, le sang n'a pas toujours exactement la même signification. C'est toujours dans la même rangée, mais ça dépend aussi du contexte. Souvent, les linguistes soulèvent la question, est-ce qu'une expression est un terme technique? Si une expression est un terme technique, ça veut dire que ce terme a toujours la même signification. Ça devient déjà quelque chose accepté comme un terme si bien connu avec seulement une petite rangée de sémantique. Mais déjà dans l'Ancien Testament, la plupart de nos expressions bibliques ne sont pas si étroites que cela. Ça dépend complètement du contexte. Je pourrais vous donner bien des exemples. Par exemple, la sanctification. La sanctification ne veut pas dire exactement la même chose dans le Nouveau Testament que dans la théologie systématique. Et ça fait partie de la responsabilité du prédicateur, de l'orateur, d'expliquer cela, il me semble. De même façon, le mot « sang » n'a pas toujours exactement le même sens. Ce n'est pas un mot technique. Des fois, c'est seulement la liquide qui sort de nos veines. Ou les veines mènent d'un bout. Et des fois, ça signale tout simplement la vie. Donc, il ne faut... Et si ça signale la vie et nous avons une tâche de sang sur nous, nous saignons nous-mêmes, Dieu déclare que c'est tellement sérieux qu'il faut être purifié dans ce sens externe. C'est pas plus que cela. De même façon qu'il fait d'autres distinctions entre aliments et aliments, poissons et poissons, pour nous démontrer que c'est Dieu, en fin de compte, qui fait ces distinctions et qui veut que nous comprenions que ce sont ces distinctions qui ont une importance extrême. Et ensuite, il nous donne aussi comment ôter ces tâches, comment nous purifier. Donc, le livre de Lévitique, en réalité, c'est un livre de comment se souiller et comment se purifier. Et c'est complètement selon les desseins de Dieu et les systèmes de purification que Dieu a donné. Donc, ça nous montre que c'est Dieu qui déclare ce qui est saint. Comment est-ce que nous allons découvrir ce qui est profane, ce qui est méchant? Est-ce que ça nous a décidé? Déjà, ça, c'est la tentation que nous trouvons déjà dans Genèse chapitre 3. Le diable dit, Dieu sait que tu deviendras comme Dieu si c'est toi qui décide ce qui est bon ou ce qui est mal. Dans Genèse 1 et 2, Dieu crée quelque chose, il décide que c'est bon. Il crée une autre chose, encore cette chose est bonne, et ainsi de suite. Et à la fin, il décide que c'est complètement... Mais il défend le couple de manger d'un certain fruit. Bon, c'est sa décision. Mais si Ève et Adam prennent la décision de décider eux-mêmes ce qui est bon, ils veulent prendre la place de Dieu. Et c'est cela qui rend la décision, non pas tout simplement briser un doigt, mais l'idolâtrie. Ça, c'est la déification de Dieu. Vous voyez, c'est l'idolâtrie. C'est moi qui décide. Et de même façon, une des raisons pourquoi il y a toutes ces formes d'impureté, il me semble, c'est pour démontrer que c'est Dieu qui décide. Et c'est Dieu qui pourvoit le système de purification. Et aller plus loin que cela. Je pense qu'il y a un symbolisme social aussi, mais ça c'est une autre question que je ne voudrais pas aborder ici. Est-ce que c'est du tout? Oui.
Est-ce qu'on peut dire que le blanc sur la croix a compris la substitution pénale?
Si quoi a compris?
Le blanc sur la croix a compris de
a compris la substitution pénale. J'en ai fort. Il a compris quand même que le Christ n'était pas coupable, que c'était un homme pur et saint. Et d'autres personnes l'ont compris aussi. Le soldat qui a dit véritablement c'est le Fils de Dieu, ou en fait ça peut être un Fils de Dieu, parce qu'il n'était pas, il n'avait pas de catégorie. Et la raison pour laquelle nous savons que le brigand était sauvé n'était pas à cause d'informations détaillées de sa compréhension, mais parce que Jésus lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et de même façon que des personnes dans l'Ancien Testament étaient sauvées, non pas parce qu'ils avaient bien compris que l'accomplissement de la mort d'un taureau serait un jour la mort du Christ, mais parce qu'ils se sont fiés à la parole de Dieu. Ils se sont fiés à la révélation que Dieu les avait accordée jusqu'à ce point dans l'histoire du salut. Donc, ils se fient à la promesse de Dieu, à la grâce de Dieu, à la vérité de Dieu, à la révélation de Dieu. De même, à ce point, il me semble, ce brigand, au moins, il a reconnu. Pas comme l'autre brigand, il a reconnu que cet homme Jésus à côté de lui n'était pas coupable. Et il a demandé quoi? Il a demandé qu'un homme si bon, qui allait apparemment avec le Père dans les cieux, pourrait se rappeler de lui. Il y a déjà des sources dans le deuxième siècle avant Jésus-Christ qui reconnaissent qu'il y a des hommes qui sont apparemment tellement bons qu'ils ont une sorte d'autorité devant le Père. C'était souvent dans un système de mérite, mais c'était quand même avec repentance et un cœur brisé. Et Jésus l'accepte. Mais ce côté-ci, dans la prédication fidèle de la parole de Dieu, de l'Évangile, il me semble que ça serait véritablement infidèle de ne pas inclure la substitution pénale, même si on l'utilise pas ces mots ou non, parce que c'est cela qui démontre que nous comprenons ce que c'est l'évangile de la bonne nouvelle pour nous réconcilier à Dieu. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Oui, c'est ça le point. Au moins, il reconnaît par cela qu'il est coupable. Oui, certainement. Oui. C'est déjà 6h30. Encore temps pour une pause. Et vous allez souffrir un peu davantage à 8h. 8h 18h.